chronique de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour Jean-Mauduit.
Bonjour Hélène.
Aujourd'hui, pour votre chronique sur les femmes écrivains, de quel ouvrage allez-vous parler ?
Eh bien, j'ai décidé, à tort ou raison, de vous parler du journal d'une saison sans mémoire, qui est de Sylvia Baron-Supervielle, baron ou baronne, je ne sais pas comment on prononce.
Parce que comme elle est d'origine argentine,
voilà.
Mais elle dit baron, je crois.
Elle dit baron.
Voilà, comme elle est déjà venue à Canal Académie, nous avons une autre émission avec
donc,
elle.
Donc, Sylvia Baron-Supervielle, un ouvrage paru chez Gallimard dans la collection Arcade et qui est vendu, que vous trouverez, au prix modique de 18 euros.
Alors le titre est très original, « Journal d'une saison sans mémoire ».
Le titre est original, le bouquin l'est peut-être encore davantage, parce que l'auteure, maintenant je fais très attention, se livre à ce qu'on pourrait appeler un exercice de style, si le contenu de ce journal, justement, était aussi riche, aussi dense, aussi étonnant. En effet, Sylvia Baron-Supervielle écrit en s'interdisant, tenez-vous, toute référence au passé, c'est-à-dire au souvenir, qu'il s'agit de sa propre mémoire, de son propre passé ou de ceux qui relèvent de la mémoire collective.
Donc elle se refuse d'écrire sur le passé, elle n'écrit donc que sur le présent.
C'est en effet, elle écrit le présent. Alors ça paraît facile quand on le dit. En réalité, pour l'auteur qui est à sa table de travail, bon, bien sûr, il y a les émotions du moment, les angoisses de l'instant, le temps qu'il fait, la nature, le vol des oiseaux, que sais-je, la beauté des fleurs, et après. Alors après, il y a quand même les réflexions de l'auteur sur la mort, sur la vie, sur l'amour, sur elle-même. Enfin, tout de même, c'est quand même étonnant. Un écrivain qui s'interdit de parler au passé et de parler du passé.
Surtout quand on sait qu'elle, Sylvia Baron-Supervielle, elle est argentine, comme je l'ai dit tout à l'heure, et
tout
qu'elle a
fait.
Donc choisi l'exil, en tout cas, elle a choisi de venir en France. Donc elle avait certainement des raisons, mais elle n'en parle pas
elle
dans ce livre.
Elle n'en parle pas.
Alors est-ce que ce n'est pas un peu fastidieux de ne parler que du présent ?
Non, pas vraiment. Vous sentez bien à mon hésitation que ça pourrait l'être. Mais cette introspection produit des beautés singulières. Bon, évidemment, ça n'est pas splendeur et misère des courtisanes. Des forçats évadés n'y sont pas traqués par des policiers presque aussi ténébreux qu'eux. Et l'action ne revendique pas de coup de théâtre en coup de théâtre, avec tout le respect et l'affection admirative que je porte à Balzac. Ce journal de Saison sans mémoire est un livre qu'on ne se méprenne pas, j'allais dire plat. Pas au sens où les propos seraient plats, ils ne le sont pas du tout. Mais c'est un livre, évidemment, qui chevauche dans la plaine. Mais c'est un livre dense.
La Beauce, quoi. Nous sommes
c'est
en
la Beauce, mais c'est la Beauce où, sous le soleil, sous le grand ciel, on réfléchit beaucoup. Et c'est un livre à déguster par petites gorges. C'est pas à lire d'une traite, c'est pas possible. Alors. C'est un livre à lire et à relire. Et en fait, ce journal, où les jours ont disparu et sont remplacés par des chapitres intitulés première version, deuxième version, etc. Il y en a 7, comme les jours de la semaine. Ce journal est un essai de fibre philosophique et poétique, et c'est, je dois le dire, très beau.
Il faut dire que Sylvia Baron-Supervielle jouit d'une réputation de poète, justement, et de grand poète dans
tout
son
à
pays.
Fait.
Donc
tout
là,
à fait.
On ressent cette poésie.
Ah, complètement, j'y reviendrai sur son écriture. Alors, pourquoi est-ce qu'elle s'interdit toute allusion au passé ? Ben, c'est un parti pris philosophique. Le passé ne peut être que nostalgie ou remords. Quand on évoque les jours enfuis, ou on en regrette la disparition et c'est la nostalgie, ou on se livre un examen de conscience pour déplorer ses fautes, ses omissions, ses péchés, que sais-je.
De toute façon, le passé nous échappe.
Le passé nous échappe, nous divise contre nous-mêmes, et effectivement, il nous échappe tellement que nous ne le vivons jamais qu'au présent. Autrement dit, nous le réinterprétons, nous le revivons, nous le recolorons en fonction de nos affects du moment, ici et maintenant.
Mais est-ce que cela suffit, le présent, à nourrir notre esprit ou la vie de l'esprit ?
Alors, c'est tout le problème, justement. Par définition, vous venez de le dire, le présent est insaisissable. Le philosophe Héraclite d'Éphèse disait « Pantarei, tout s'écoule », en faisant référence à ce changement incessant auquel sont confrontés les êtres humains. La seconde d'avant, nous n'étions pas ce que nous sommes à la seconde d'après, et nous ne sommes pas devenus non plus ce que nous serons à la seconde suivante. Et Sylvia Baron confesse les difficultés que lui vaut ce pari littéraire. et on peut le dire philosophique. Quelle est la durée du présent, je cite, celle de la concentration qu'il exige. J'en ai la volonté, mais je n'arrive pas à le faire durer plus d'une seconde.
Difficulté de concentrer le présent, évidemment.
D'essayer de le saisir. C'est un aveu touchant, d'ailleurs un peu naïf. On écrit un bouquin avec des sensations, des sentiments dont chacun, chacune n'a pas duré plus d'une seconde. Bon, alors, elle cite Bergson. Et il est vrai que Bergson a dit « Rien ne nous empêche, je cite, de reporter aussi loin que possible en arrière la ligne de séparation entre notre présent et notre passé. Une attention à la vie, c'est toujours Bergson, qui serait suffisamment puissante et dégagée de tout intérêt pratique, embrasserait ainsi dans un présent indivisé l'histoire passée tout entière de la personne consciente. » Bon, c'est ce présent indivisé, c'est ce présent pléthorique, ce présent gonflé que Sylvia Baron tente d'atteindre. Elle se positionne en fait à l'intersection des deux lignes perpendiculaires du schéma structuraliste. Vous savez, l'une qui est horizontale, c'est celle de la diachronie, c'est-à-dire l'histoire, le devenir, le récit, l'aventure, et l'autre verticale, qui représente la synchronie, c'est-à-dire justement cette capacité d'enclore le passé toujours actuel dans cette conscience diffuse que nous en avons. Et selon les structuralistes, et Lévi-Strauss, dont la mémoire nous est précieuse, a construit un peu son approche sur ce thème, à savoir que l'être humain fait de lui ses actes, que dirait Sartre, mais en même temps, il a en lui, en clos, tout un passé, le sien, qui est présent à tout moment. Le sien est celui de sa tribu, de sa famille, de son clan, qui est présent à tout moment. Eh bien, si le baron tente à la fois d'arrêter la diachronie, puisque par définition, si on se fixe au présent, on stoppe le mouvement, et de faire comme si l'insynchronie n'existait pas. Donc elle est au point de rencontre de ces deux perpendiculaires, une position acrobatique.
C'est un pari, oui, c'est un pari difficile à tenir. Est-ce qu'elle y réussit, alors, dans ce livre?
Écoutez, je ne suis pas philosophe de profession, je le suis par goût. Du point de vue philosophique, c'est quand même discutable. Sous l'angle littéraire, c'est pleinement réussi. Ce livre est très beau, très très beau. Et Sylvia Baron, en outre, est d'origine argentine, vous l'avez rappelé au début de cette rencontre, on trouve là une dimension essentielle de son livre. Elle est la femme de deux mondes, et comme telle, inévitablement divisée, même si elle a choisi la France comme lieu culturel de référence. Et sa réflexion, en plus d'être au présent, nous la montre errant d'un continent à l'autre, et elle regarde la vie, elle se regarde elle-même, tantôt de cette rive-ci de l'Atlantique, avec au lointain son Argentine native, natale, tantôt depuis l'Argentine, où elle considère notre Europe, tout en se ressourçant à ses souvenirs initiaux. Donc c'est deux personnes en une, toujours la même, et ça risquerait d'être, je ne sais pas moi, une espèce de paranoïa.
Mais elle est sauvée par.
Elle est sauvée par l'unité de la force poétique qui l'habite. Et c'est là qu'on retrouve la grande dimension de cet auteur.
Oui, il faut dire que c'est un auteur, Sylvia Baron Supervielle, qui n'est plus toute jeune. Nous ne parlons pas d'une jeune fille, ni même d'une jeune femme. Ouais. Elle m'a dit l'autre jour, dans l'autre émission que nous avons faite avec elle sur Marguerite Yourcenar, qu'elle avait aujourd'hui l'âge que Marguerite Yourcenar avait sur les derniers moments de sa vie. Donc, ce n'est pas la vexée de lui dire que ce n'est plus une jeune femme.
Oui, mais on est jeune à tout âge, vous savez bien.
Voilà, voilà.
Alors, cette tentative de fixer le présent n'est pas entièrement aboutie. Et après tout, c'est rassurant, parce que à la page 219 de son ouvrage, qui en compte 251, c'est-à-dire qu'on approche de la conclusion, Sylvia nous confesse que « ces derniers jours, malgré ma résistance, un passé abstrait s'infiltre dans ma saison. C'est un passé inhabité, qui a parcouru les mers, les fleuves, les plaines, et qui à la fois m'identifie pleinement. C'est un passage, alors notez la phonie, passage passé, merci docteur Lacan, par lequel j'avance en m'exposant au froid du présent. C'est très bien dit, c'est très beau. En fait, l'expérience hors du temps est terminée. Le présent est décidément hors de portée. Et elle achève de confesser. Je tente de lui donner une langue, voire une histoire. Les couleurs ne le voient pas, ne voient pas le présent. Il s'enfuit à toute allure. On ne peut pas le toucher ni l'arrêter. Il ne sort pas à la lumière. Et pourtant, elle est prisonnière de ce présent-là. Pourtant, dit-elle, il n'y a pas d'heure ni de minute qui ne soit lui, pas de mort ni de vie. Le mot de l'énigme serait-il Dieu ? Et ce que je trouve très intéressant, d'ailleurs je la rejoins complètement là-dessus, c'est une de mes pensées les plus chères, que le temps, de façon générale, sous tous ses aspects, ce temps incompréhensible pour l'homme, est une dimension de Dieu. Ça, je le crois profondément. Sylvia Baron évoque à plusieurs reprises un mot très lourd de sens, qui est l'attente, où elle se trouve inexplicablement aussi. L'attente de l'amour, l'attente d'un signe, l'attente de Dieu.
Alors un mot tout de même sur son écriture, Jean Mauduit.
Oh, c'est superbe. C'est un style dense, charnu, sensuel, mais d'une grande nudité, sans aucune afféterie, sans effet, sans bimbloterie, sans tout cet appareil dont s'encombrent les mauvais écrivains. C'est un livre donc tendu de bout en bout par une réflexion essentielle, mais qui n'est jamais abstrait. Et il fourmille de bonheur d'écriture, précisément. « Je voudrais, dit l'auteur, nommer la merveille du monde dont il ne reste aucun vestige. Que c'est beau. Et ailleurs, aucun ciel ne me dit où se cache le trésor, mais je sais qu'il existe et que nul autre que moi ne saurait le trouver. » Une espèce de formule saisissante où elle fait tenir en 25 mots toute la beauté, la grandeur, on pourrait dire, du défi que se lance le créateur, qu'il soit romancier, poète, musicien, peintre ou sculpteur, tout le monde est à la recherche de ce trésor. Tout le monde a l'impression qu'il est seul à pouvoir le trouver, mais il n'y a que quelques-uns très rares qui y réussissent. « Je sais, dit-elle, que le trésor existe et que nul autre que moi ne saurait le trouver. » Et on a envie de lui répondre que c'est fait, ou du moins qu'elle brûle. Elle brûle.
Merci Jean Mauduit de nous avoir conseillé cet ouvrage de Sylvia Baron-Supervielle, Le journal d'une saison sans mémoire, qui est paru chez Gallimard dans la collection Arcade. À bientôt pour une autre chronique.
À bientôt Hélène.